Oui, nous sommes dans ce temps de l'attente, l'attente de la lumière de Jésus. Et dans cette période de l'Avent, il est opportun de nous rappeler que Jésus n'est pas venu dans un monde de bisounours, mais qu'il est venu au milieu d'un monde de violence, un monde de ténèbres, et qu'il est venu pour changer ce monde. Il est venu pour apporter la lumière et guérir les nations. Alors nous allons poursuivre ce matin notre lecture dans le livre d'Ésaïe, poursuivre la méditation que nous avons commencée la semaine dernière. Ces textes prophétiques sont relativement difficiles si nous les entendons pour la première fois, que nous n'y sommes pas habitués, et c'est pourquoi j'en ferai une première lecture, puis je reprendrai progressivement section par section au niveau de la lecture pour commenter à chaque fois le texte qui aura été lu. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en Ésaïe, chapitre 8, verset 1. Ésaïe, chapitre 8, verset 1. Et je lis dans la Nouvelle Bible Second. Le Seigneur me dit, « Prends une grande tablette et écris dessus d'une manière intelligible. « Maher shalal hashbaz », ce qui veut dire « vite au butin, en hâte au pillage ». Je fis témoigner pour moi des témoins sûrs. Uri le prêtre et Zacharie, fils de Yéberekia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle fut enceinte et mit au monde un fils. Le Seigneur me dit, appelle-le du nom de Maher Shalal Hashbaz, vite au butin, en hâte au pillage. Car avant que l'enfant sache dire, papa, maman, on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Le Seigneur me dit encore, parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia. Voilà pourquoi le Seigneur fait monter contre eux les eaux puissantes, les grandes eaux du fleuve, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Partout il débordera de son lit, il s'en ira par-dessus toutes ses rives, il balayera Juda, il déferlera et submergera, il montera jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, Emmanuel. Et je poursuis à partir du verset 18. C'est Ésaïe qui parle et il dit moi-même. Et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur des armées qui demeure au mont Sion. Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Ne s'adresse-t-il pas aux morts pour les vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son dieu. Il se tournera vers le haut, puis il regardera vers la terre, et ce sera la détresse, l'obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né jusque-là. Seigneur, que cette parole, nous puissions la recevoir ce matin, que tu nous aides à la comprendre, qu'elle ait du sens pour nous et qu'elle nous mette en route sur un chemin de vie et de lumière. Amen. Alors, avant de reprendre ce texte section par section, J'aimerais dire quelques mots du contexte. Nous sommes ici plongés au cœur d'un conflit qui a agité la Palestine au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et bien sûr, tout parallèle avec une situation contemporaine serait purement fortuit. Mais écoutez, Dieu envoie son prophète Ésaïe exercer son ministère dans une capitale, Jérusalem, capitale du royaume de Juda. Et cette capitale est une ville opulente, remplie d'argent et d'or, avec des trésors à l'infini, comme on en trouve à l'Orangerie, au Louvre. Nous ne trompons pas d'époque, mais il y a, dans cette ville opulente, un homme qui est chargé d'annoncer la parole de Dieu. C'est une époque où le roi craint pour son pouvoir. Du temps de son père déjà, Jotham, les deux voisins du nord, le roi Retsine, qui régnait à Damas, et le roi Pekah, qui régnait à Samarie en Israël, s'étaient ligués et avaient voulu contraindre le royaume du sud à faire coalition afin de faire barrage à l'empire assyrien qui commençait à s'étendre à l'infini, un royaume qui faisait peur. Mais ils avaient échoué. Jotham avait gardé sa pleine confiance dans le Seigneur et avait refusé d'entrer dans cette coalition militaire. Maintenant, changement de temps, changement d'époque, nouveau roi, Ahaz, à 20 ans, monte sur le trône. Et ces deux rois du Nord se disent que c'est peut-être le bon moment pour revenir et chercher à renverser ce nouveau roi afin d'établir un homme de confiance, leur homme de paille, celui qui va pouvoir entrer dans la coalition qu'ils espèrent. Donc ils marchent contre la ville sainte. Le jeune roi Ahaz s'en va examiner ses réserves en eau. Il veut être sûr qu'il va pouvoir tenir le siège de ces deux rois, contre ces deux armées ennemies, contre ces deux rois qui viennent à sa rencontre. Et c'est à ce moment-là que Dieu demande à son prophète d'aller apporter une parole au roi. Ésaïe va à la rencontre du roi pour apporter une parole de confiance. Il lui demande de mettre son espérance dans le Seigneur et non pas dans des conspirations militaires, dans des combines politiques. Ahaz n'est-il pas le descendant de David? Dieu n'avait-il pas promis à cette descendance de David qu'un jour allait naître un Messie? Ahaz ne se devait-il pas d'être fidèle à son Dieu afin que naisse un jour ce Messie promis? Mais dans le contexte précis, Ahaz tremble de peur. Il a peur de l'attaque qui se prépare. Ésaïe va à sa rencontre et lui dit, ou plutôt lui commande, ou même plutôt lui ordonne, parce qu'il a dû parler d'une voix forte, et lui dit, écoute-moi, garde ton calme, n'aie donc pas peur, ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant. Ils vont bientôt s'éteindre. Ces deux rois ont projeté un malheur contre toi, mais sache que qu'ils n'y parviendront pas, cela n'arrivera pas. Si tu me fais confiance, si tu renonces à faire une alliance militaire avec l'Empire assyrien, si tu renonces à vouloir te protéger par des moyens humains, ces deux bouts de tison fumant vont s'éteindre. Mais sache que si tu ne me fais pas confiance, si tu ne tiens pas à moi seul, si tu veux assurer tes arrières, alors tu ne tiendras pas. Malheureusement, Ahaz refuse de placer sa confiance dans le seul Seigneur. Et le bruit des bottes se fait déjà entendre. Comment pourrait-il ne pas chercher à assurer ses arrières? Comment, alors que le siège se prépare, pourrait-il ne faire confiance qu'à Dieu? Dieu lui donne alors un signe que lui refuse, mais un signe qui montre qu'Ahaz aurait pu faire confiance. Ce signe, c'est celui d'un enfant qui va venir, un enfant royal, un Messie, qui va naître d'une manière absolument prodigieuse. Il va naître d'une fille qui est encore vierge. Et on va l'appeler Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Mais en moins de temps qu'il n'en faudra à cet enfant pour apprendre à discerner le bien et le mal, c'est-à-dire peut-être moins de 2 ans, eh bien les capitales du Nord, de Damas, de Samarie, vont être anéanties par l'Empire assyrien. Donc la menace qui fait tellement peur à Ahaz va disparaître dans les 2 ans qui viennent. Et ce signe, c'est bien celui qu'il était possible de faire confiance à Dieu. Mais parce qu'Ahaz refuse ce signe, qu'il refuse de faire confiance à Dieu seul, ce signe est accompagné d'un autre signe. Cet ennemi avec lequel Ahaz cherche à se liguer, cet ennemi assyrien, pour se protéger des deux puissances du Nord, va un jour se retourner contre lui et contre son royaume. Un jour, son propre royaume va être dévasté, parce qu'on ne peut pas faire alliance avec l'ennemi, on ne peut pas faire alliance avec le mal. Un jour, le mal nous rattrape et nous rejoint. Voilà ce qu'il en coûte à ceux qui refusent de faire confiance à Dieu seul. Et savez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, exactement 2 ans plus tard, la parole s'est accomplie. Les deux royaumes du Nord ont été dévastés. Damas a été détruit, une importante partie d'Israël a été annexée. Le Seigneur a tenu parole. Et s'il a tenu parole, il tiendra aussi parole dans son jugement à l'égard du royaume du Sud. Et c'est là que nous relisons maintenant les 4 premiers versets d'Ésaïe 8. Le Seigneur me dit, donc à moi, Ésaïe, le Seigneur me dit, « Prends une grande tablette et écris dessus d'une manière intelligible, « Maher Shalal Hashbaz, vite au butin, en hâte au pillage. Je fis témoigner pour moi des témoins sûrs, Uri le prêtre et Zacharie, fils de Yéberekia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle fut enceinte et mit au monde un fils. Le Seigneur me dit, « Appelle-le du nom de Maher Shalal Hashbaz, vite au butin, en hâte au pillage. Car avant que l'enfant sache dire « Papa, maman », on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Le Seigneur me dit. Comment le Seigneur a-t-il dit à Ésaïe? On ne le sait pas précisément. Peut-être Ésaïe a-t-il eu un songe ou une vision durant la nuit. Ce qui est sûr, c'est qu'Ésaïe reçoit un message de la part de Dieu et qu'il a la conviction que ce message vient de Dieu. Il doit graver sur une tablette, probablement une tablette en ivoire, un message en gros caractères qui dit « Vite au butin, en hâte au pillage ». Et 2 témoins vont être là pour assister au fait que c'est bien le prophète Ésaïe qui a inscrit ce message sur la tablette et donc que c'est bien un message de Dieu. Cette tablette va être placée dans Jérusalem pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ce message divin. Parce que quand Dieu parle, il fait en sorte que son message soit entendu. Que dit-il par ce message? Il dit que face au bruit de bottes, face à la menace qui pèse sur Jérusalem par ces 2 rois du Nord, que la population soit rassurée. Les agresseurs vont être punis. Les 2 capitales du Nord, Damas et Samarie, vont faire l'objet d'un pillage. Leurs richesses vont être emmenées. C'en sera fini pour eux. Et comme si ce message écrit n'était pas suffisant, le Seigneur veut qu'il s'incarne dans la vie d'un enfant. Ésaïe s'approche alors de la prophétesse. La prophétesse, c'est sa femme. S'approcher de la prophétesse, c'est un euphémisme pour dire qu'il a un rapport intime avec elle. Sa femme va être enceinte, va accoucher d'un fils. Et comme les fils d'Ésaïe sont toujours des signes que donne le Seigneur, quel est le nom que va porter ce fils? Eh bien, il va porter le nom, en hébreu, Maher Shalal Hashbaz, ce qui veut dire « vite au butin, en hâte au pillage ». Et avant que l'enfant ne sache prononcer ses premiers mots, maman ou papa, donc vers l'âge de 2 ans, Damas et Samarie vont être dévastés par le roi assyrien, exactement comme on l'a vu au début du chapitre 7. Et ce sera le cas en 732 avant Jésus-Christ. C'est déjà le 3e enfant qui sert de signe. Il y a eu la semaine dernière, vous vous souvenez, un premier fils qui s'appelait Shear Yashub. Un deuxième qui a été annoncé, qui s'appellerait Emmanuel. Et cette fois-ci, un troisième. Chaque fois, il s'agit de très jeunes enfants qui sont encore complètement dépendants de leurs parents, qui ont une pleine confiance dans leur père. Est-ce que ce n'est pas un signal aussi pour nous que nous devrions être comme ces enfants, ayant une pleine confiance en Dieu, refusant de nous appuyer sur des choses humaines, sur des appuis humains? Ces enfants seront des signes aussi pour nous. Je lis la suite du chapitre 8 dans Ésaïe. Le Seigneur me dit encore. Une nouvelle fois, Dieu parle à Ésaïe et lui dit ceci. Parce que ce peuple, c'est-à-dire le peuple de Juda, parce que ce peuple a rejeté les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia. Voilà pourquoi le Seigneur fait monter contre eux les eaux puissantes, les grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Partout, ce fleuve débordera de son lit, et il s'en ira par-dessus toutes ses rives. Il balayera Juda, il déferlera et submergera, il montera jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, Emmanuel. Ésaïe dresse une comparaison entre deux sources d'eau, deux cours d'eau. Il y a d'une part les eaux calmes de Siloé. Siloé, c'était les eaux qui alimentaient la ville de Jérusalem. Il y a d'autre part le flot impétueux du fleuve de l'Euphrate, qui fait allusion à l'empire assyrien dans lequel coule ce fleuve. Ces eaux impétueuses qui vont bientôt déferler sur le pays de Juda, le balayer sur son passage. Les Judéens refusent de faire confiance à Dieu. Ils refusent les eaux calmes, la présence douce du Seigneur. Ils refusent de faire confiance en l'Éternel. Ils refusent sa protection. Mépriser les eaux qui arrivent dans la cité sainte, c'est mépriser le Seigneur. Et parce qu'ils méprisent le Seigneur, ils auront à subir un torrent impétueux qui va déferler sur eux et les submerger. Le torrent de l'invasion assyrienne. Une invasion qui va s'étendre sur tout le pays qui, dès à présent, appartient déjà à Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu promet donc une condamnation sur les Judéens. Et cette condamnation est juste. Pourquoi est-elle juste? Parce que les Judéens ont refusé le Seigneur. Et même, nous dit le texte, ils se sont réjouis de la défaite des deux royaumes du Nord qui étaient annoncés. Mais comment peuvent-ils se réjouir que les deux royaumes du Nord soient dévastés alors qu'eux continuent à mépriser le Seigneur? Le Seigneur va les frapper. Nous avons comme une prière qui est adressée à la fin de cette prophétie qui annonce la destruction de Juda et qui dit que ce pays appartient à Emmanuel. Une prière qui dit, mais ô Emmanuel, qui ne pleurerait pas de voir l'ennemi venir complètement dévaster ton pays? Ce pays que tu avais toi-même promis à ton peuple, ce pays qui est dévasté par cette puissance étrangère. Mais Dieu est bon, et quand il fait planer la menace d'un jugement, déjà pointe à l'horizon sa grâce. Sa grâce est telle que la dévastation annoncée n'est même pas complète. Les eaux vont venir, certes, sur tout le pays. Elles vont remplir Jérusalem, mais seulement jusqu'au cou. Comme si la tête du pays allait être préservée. Jérusalem va être préservée. Ce qui nous indique qu'un reste va être sauvé. Tous ne seront pas éliminés, tous ne seront pas sous le coup du jugement. Finalement, l'ennemi ne réussit jamais à parvenir complètement à ses fins. C'est toujours l'Éternel qui a le dernier mot. Je lis la suite, Ésaïe 8, à partir du verset 18. « Moi-même, dit Ésaïe, moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur des armées qui demeure au Mont Sion. Et si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il se tournera vers le haut, puis il regardera vers la terre. Ce sera la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ésaïe dit qu'il est un signe, lui et ses deux enfants, Shéar-Yachoub et Maher-Shalal-Hashbaz. Ils sont des signes, des symboles. Chaque fois qu'Ésaïe se promène dans la ville de Jérusalem avec ses deux enfants, et on peut imaginer qu'il les tient chacun par un bras, tout le monde les voit. Ils savent le nom de ces deux enfants qui ont été donnés comme des signes. En voyant Ésaïe, ses deux enfants, la population sait que le jugement de Dieu va s'abattre. Mais il sait aussi qu'un reste reviendra, que le salut va poindre. Il va poindre pour tous ceux qui acceptent de faire confiance en l'Éternel. Oui, le jugement va écraser le peuple, mais un reste sera sauvé. Ceux qui font confiance en l'Éternel ne vont pas être détruits. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, comme du temps d'Israël, disent être des enfants du Seigneur, disent appartenir au peuple de Dieu, mais en fait ne professent Dieu que du bout des lèvres et non pas dans leur cœur. Extérieurement, ils participent au culte comme les Israélites participaient au culte de Yahweh dans son temple, mais leur cœur était très éloigné de Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui professent du bout des lèvres le Seigneur, mais qui vivent très éloignés de lui, très éloignés du Messie qui apporte le salut. C'est dans ce sens-là qu'Ésaïe est un signe avec ses deux enfants, un signe pour nous aujourd'hui aussi. Nous ne pouvons pas demeurer loin du Seigneur, à moins, sinon nous allons encourir le jugement du Seigneur sur nous. Ésaïe veut dire Dieu sauve par la racine de son nom. Ésaïe préfigure déjà, non seulement le jugement, mais préfigure le Christ qui doit venir. Et d'ailleurs, ce verset qui dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés » est cité dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 13. Et ce verset, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés » s'adresse au Christ. C'est Jésus qui est ce signe. À la fois ce signe de jugement pour ceux qui refusent de placer leur confiance en lui, qui refusent d'attacher leur cœur à lui, ceux-là seront condamnés parce qu'ils auront rejeté Dieu, mais aussi signe de la grâce pour tous ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur des armées célestes. Dieu peut tout. Dieu peut nous délivrer de tous les dangers. La question qui se pose ici et qui se pose dans l'ensemble de cette prophétie, c'est celle de savoir où nous plaçons notre confiance. Quand les temps sont difficiles, quand l'avenir est bouché, quand il n'y a plus vraiment de perspective, où est-ce que je place ma confiance? Et dans ces moments-là, nous entendons toutes sortes de voix. Des voix qui nous amènent à chercher la confiance partout où nous pourrions la trouver, qui cherchent à placer des sécurités partout où nous pourrions en trouver. Et parmi les voix qui peuvent se prononcer dans ces moments tragiques, eh bien, il en est qui disent « Allez chercher la sécurité en pratiquant l'occultisme, en consultant des spirites et des médiums qui vont vous dire de quoi l'avenir sera fait. Et ainsi, vous pourrez vous comporter en conséquence. Allez interroger le monde invisible. Allez consulter les morts pour qu'ils puissent vous prédire l'avenir des vivants. Et des personnes qui sont parfois très rationnelles face à l'incertain de la vie cherchent ce type de sécurité. Ils cherchent à être rassurés. Ils veulent connaître de quoi demain sera fait. Il est de notoriété publique que l'ancien président François Mitterrand consultait une voyante pour savoir de quoi l'avenir serait fait. Les humains n'aiment pas être dans l'incertitude. Ils n'aiment pas savoir quelle sera la journée de demain. Ils ont besoin d'indications dans le brouillard et les ténèbres de la vie. Mais au lieu de faire confiance en Dieu, ils vont consulter des médiums. Comme si les esprits des morts pouvaient conduire les vivants. Mais où conduiraient les esprits des morts ailleurs que dans la mort, justement? Ésaïe demande, pose cette question. Où irions-nous? Que répondrons-nous quand on nous suggérera d'aller consulter les augures, les spirites et les devins? Nous n'avons pas, peuple de Dieu, à aller consulter les esprits des morts. À la loi et au témoignage, répond Ésaïe. C'est-à-dire, revenez à la loi de Dieu. Cherchez dans la loi de Dieu votre sécurité. Cherchez en Dieu celui qui peut vous délivrer. Notre réponse ne peut jamais être d'aller chercher notre sécurité dans la connaissance de l'avenir immédiat. Déjà, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 11, il nous est dit qu'on ne peut pas consulter les augures. Il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. Pratiquer ces choses, c'est chercher le secours ailleurs qu'en Dieu. Et lorsque nous ne faisons plus confiance à Dieu, nous pratiquons l'idolâtrie. Le peuple de Dieu doit absolument se détourner de ces pratiques, de toute pratique ésotérique et occulte. Son avenir est en Dieu. C'est lui qui est le Seigneur. Les autres peuples cherchent leur sécurité dans leur Dieu, dans leur divinité, des divinités qui ne sont rien, qui ne sont que du néant. Mais nous, peuple de Dieu, nous devons chercher le Dieu véritable. Il n'y a personne ni rien d'autre qui puisse nous assurer la vraie sécurité. Dans les temps de calamité, dans les temps de détresse, dans les temps d'angoisse, dans les ténèbres qui peuvent être les nôtres ou celles qui nous environnent, ce n'est pas ailleurs qu'en Dieu que nous allons trouver notre sécurité. Consulter les morts, c'est pratiquer un déni par rapport à l'existence de Dieu. À la loi et au témoignage, dit Ésaïe. Nous devons toujours revenir à la parole de Dieu. Revenir à cette alliance que Dieu a passée avec son peuple. Est-ce que Dieu n'a pas fait alliance pour nous protéger? N'a-t-il pas dit qu'en faisant alliance avec nous, nous étions en sécurité? Pourquoi est-ce que nous irions chercher notre sécurité ailleurs qu'en lui? Ce serait trahir Dieu, lui être infidèle. Dans les ténèbres, il n'y a qu'une seule lumière. Et cette lumière, elle est en Dieu. Elle ne peut pas venir d'ailleurs. Aucun médium, aucun spirit ne peut apporter un vrai éclairage qui va nous orienter d'une manière droite et juste et qui va nous amener dans un chemin de vie. Aucun médium, aucun spirit. Ésaïe est très ferme. Il dit que pour ceux qui s'écartent des Écritures, pour ceux qui ne font pas confiance en Dieu, il n'y aura pas d'aurore possible. Ils continueront à vivre dans la nuit de leurs ténèbres. Le soleil ne va pas se lever dans leur vie tant qu'ils ne se tourneront pas vers la loi de Dieu pour s'y soumettre. Ésaïe donne encore cette image. Celui qui refuse de faire confiance à Dieu est comme quelqu'un qui erre sans but dans le pays, ne sachant pas où il va. Et c'est quelqu'un qui dépérit progressivement. Il dépérit non seulement physiquement, parce qu'il a faim, mais il dépérit spirituellement. Hors de Dieu, nous errons. Nous sommes sans repère. Celui qui ne fait pas confiance à Dieu se retrouve sans foi ni loi. Il en vient à maudire le gouvernement qui ne lui donne pas assez à manger. Il en vient à maudire Dieu de le laisser dans cette situation. C'est écrit dans le texte, relisez-le. Et c'est ce que nous vivons ces jours-ci. Le verset 21 nous dit, il traversera, celui qui refuse Dieu, il traversera le pays accablé et affamé. Et sous l'effet de la faim, il s'irritera et maudira son roi et son Dieu. Loin de Dieu, nous arrivons dans l'anarchie. Loin de Dieu, la famine guette et c'est la mort qui se tient tapis à la porte. Celui qui rejette Dieu se voit finalement rejeté de Dieu. Elle se trouve plongée dans les ténèbres, encore plus forte qu'avant. Quand on se détourne de Dieu, quand on se détourne de sa parole, on perd les bons repères. Celui qui maudit Dieu a beau alors chercher son espoir vers le ciel et se dire « d'où viendra mon secours ?» Il n'en trouve plus. Il a beau regarder autour de lui, errer dans le pays pour trouver de l'aide, sa vie n'est plus que désolation, détresse, obscurité, sombres angoisses. Et plus il s'éloigne de Dieu dans sa colère, plus il est repoussé dans d'épaisses ténèbres. Il n'y a plus d'espoir, plus de salut. L'obscurité s'est appesantie sur lui. Et c'est ainsi que celui qui s'adonne à de sombres présages s'adonne aussi aux œuvres des ténèbres. Et celui-là ne peut que s'attendre au malheur, à la détresse et à la souffrance. Dans la Bible, le péché est décrit comme d'épaisses ténèbres, des ténèbres étouffantes. Et l'obscurité du péché amène toujours à l'oppression. Ceux qui suivent un chemin qui est le chemin du péché, le chemin de la raison autonome, un chemin sans Dieu, ces gens-là, parfois, espèrent trouver les lumières. Espère trouver les libertés ou la liberté. Mais ces gens-là se trompent lourdement. Parce que la fin de tous ceux qui vivent dans la nuit, eh bien, c'est d'être plongés encore davantage dans les ténèbres. Les pécheurs pensent parfois qu'ils vivent dans la lumière. Ils pensent parfois qu'ils possèdent la liberté, l'indépendance, qu'ils sont libres de tout préjugé. Mais en fait, ils sont esclaves. Esclaves de leur pessimisme, esclaves de leur vision négative du monde. Ils sont sans foi ni loi et ils sont portés à faire le mal. Ils sont esclaves du mal. Alors je lis la suite d'Ésaïe, chapitre 8, verset 23. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Enfin, une bonne nouvelle. Après les ténèbres, la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, dit Ésaïe. Là, on a un message d'espoir. Si le monde sans Dieu va vers le chaos et vers le néant, le monde avec Dieu est revêtu de la lumière du Christ. Dieu ne va pas laisser le monde dans le chaos. Dieu a décidé de venir au secours. Dans un premier temps, le jugement s'est abattu. Et ce n'était pas qu'une menace en l'air. Le jugement s'est réellement abattu sur le peuple de Dieu, ce peuple qui s'était détourné de lui. Il est question, dans le texte, des territoires de Zabulon et de Nephtali. Ce sont deux territoires autour de la mer de Galilée. Ces deux territoires ont été les premiers à être envahis et à être soumis par les Assyriens, vers 732. Et puis la population a été déportée. Il reste peu de choses dans ces territoires. Les ténèbres ont envahi le pays, le paganisme a été importé, a fait, ces deux pays sont envahis maintenant par des pratiques païennes. Mais Dieu promet qu'il arrive un second temps. Après le temps du jugement, vient un dernier temps. Un temps de gloire. Et c'est précisément au cœur de cette région qui a été délaissée et méprisée, envahie par le paganisme, envahie par les plus profondes ténèbres, c'est au cœur de cette région que va surgir l'espoir d'un monde nouveau. Dieu va honorer cette région d'une gloire nouvelle. Une lumière va s'étendre à partir de là jusque hors les frontières d'Israël. Cette lumière va se répandre dans les nations alentours, dans les nations païennes. Et le Nouveau Testament nous apprend que c'est précisément dans cette région de Zabulon et de Nephtali, dans la région de la Galilée, que Jésus, le Fils de Dieu, a commencé son ministère. C'est à partir de là que la lumière s'est répandue. Et c'est pourquoi Ésaïe écrit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit poindre une grande lumière. Là où régnait la mort, une lumière de vie apparaît, une lumière qui s'étend, une lumière qui n'est plus réservée aux seuls juifs. Le texte nous dit qu'il y a une moisson nombreuse, des gens très nombreux qui se tournent vers cette lumière qui resplendit. Il est question d'une nation qui devient nombreuse. Elle devient nombreuse par l'addition de tous les païens qui se tournent vers la lumière de l'Évangile. La bataille contre les forces du mal est engagée. La victoire est déjà assurée. Chaque fois qu'une personne se tourne vers le Christ, c'est comme si un butin était arraché au prince des ténèbres. On rassemble une nombreuse moisson. Est-ce que ce n'est pas l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à Abraham, qu'il aurait une descendance nombreuse? Et il est dit que parmi le peuple de Dieu règne désormais une joie, une allégresse. Parce qu'il y a une vraie joie à voir l'action de Dieu. Il y a une vraie joie à voir des gens qui se tournent vers le Seigneur. Il y a une allégresse dans le salut de Dieu. Jusque-là, Israël avait été comme une bête de somme sur laquelle on met un joug, un bâton de bois qui force à avancer dans une direction précise. Israël portait un lourd fardeau. C'était le fardeau du péché, de la corruption, un fardeau qui venait du fait qu'il s'était éloigné de Dieu. Et vous vous souvenez qu'autrefois Israël avait effectivement subi le joug de l'esclavage. Ils avaient été en Égypte. Et la trique avait frappé leur dos. Et plus tard, à l'époque d'Ésaïe, c'est le cruel envahisseur assyrien qui les frappe de son bâton. Et maintenant, Israël est toujours esclave du péché, entraîné ou enchaîné par les cordages du mal. Mais Dieu promet sa victoire. Une victoire comme celle de Madian. Que s'est-il passé à Madian ? L'Éternel avait réduit les troupes de Gédéon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une poignée d'hommes pour aller battre l'ennemi qui était là. La victoire de Gédéon n'est pas la victoire des hommes. C'est pas une victoire remportée par des moyens humains. C'est une victoire divine. C'est la victoire de Dieu contre les forces du mal, contre les puissances des ténèbres. Eh bien, comme pour Gédéon, nous pouvons, nous aussi, remporter la victoire contre les ténèbres et contre le mal. On ne va pas y réussir avec nos propres forces. Personne ne peut être libéré du péché par ses propres moyens. Mais la victoire sur les forces du mal est une bataille spirituelle que nous pouvons remporter avec la force de Dieu. Cette victoire, elle était possible car un enfant nous est né, un enfant royal, descendant de la lignée de David, le Messie promis, celui qui va apporter une délivrance éternelle. Peut-être ce matin, certains parmi nous se sentent aussi esclaves, ont l'impression qu'il y a un joug qui pèse sur leurs épaules, qu'ils sont réduits à être des bêtes de somme, asservi à un pouvoir cruel. Mais il y a quelqu'un, un enfant, qui peut vous apporter ce matin la libération. Dieu nous demande de nous approcher de cet enfant, parce qu'il est venu libérer l'homme en remportant une formidable victoire à la croix. Jésus a gagné la victoire contre les épaisses ténèbres. Toutes les forces du mal, toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille, toutes les armes du diable, tous les manteaux vont être livrés au feu. La victoire de Dieu est totale et sera totale. Et ce matin, chacun d'entre nous peut être au bénéfice de cette victoire totale. Chacun d'entre nous qui place sa confiance en Jésus seul peut être délivré de ses ténèbres et peut être assuré de son avenir, d'un avenir avec Dieu, d'un avenir en Jésus. Est-ce que nous voulons faire partie de ces hommes, de ces femmes en qui Dieu prend plaisir? Est-ce que nous voulons lui faire pleinement confiance pour notre vie? Pour cela, il faut renoncer aux moyens humains, renoncer à nos sécurités, et dire « Seigneur, je te fais confiance, j'ai besoin de toi dans ma vie, viens me délivrer de tout ce qui m'a servi. Je veux vivre libre avec toi, je veux entrer dans ta lumière et ne vivre que pour toi. Le salut se trouve en Dieu seul. » Amen.